Libre Radio, c'est ici et c'est maintenant. www.libradio.org.
Donc nous sommes le 30 avril 2020 à l'aune du 1er mai, confiné ici à Genève dans cette situation de Covid-19 avec les mesures administratives qui ont cours. Nous sommes en compagnie et je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre du temps pour nous répondre. Andrea, bonjour à toi.
Oui, bonjour.
Donc Andrea, tu vas parler pour Sud, le syndicat solidaire, unitaire et démocratique, ainsi que Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et Laurent, eh bien toi, tu vas nous parler au nom de l'Association romande des travailleurs de l'installation électrique. Si vous êtes d'accord, eh bien je commence par vous céder la parole et puis vous nous diriez quelques mots sur vous, quelle fonction vous occupez au sein de votre organisation. Et ensuite, on parlera un petit peu de l'organisation. Qui est-ce qui veut commencer ?
Oui, alors moi je m'appelle Laurent Tetamanti, je suis un militant syndical actuellement de l'Association romande des travailleurs de l'installation électrique, comme tu l'as dit. Et donc je suis membre du comité directeur de ce syndicat qui s'est créé l'année dernière. Je m'occupe en fin de compte de toute la partie, disons, des questions juridiques, des dossiers individuels au prud'homme, ou bien en particulier de cela, mais aussi, disons, plus généralement de tout le développement de l'association.
Je te remercie. On va immédiatement donner le site internet de. Alors, on peut l'abréger en ARTI, c'est ça, hein? ARTI.
Oui.
Donc c'est www.comité-électro-vaudois.ch. Tout cela, bien entendu, sera au libellé du podcast, donc il suffira de cliquer dessus. Merci. À ton tour, Andrea.
Merci. Alors Andrea, je suis donc secrétaire syndicaliste, militant. Je fais partie aussi du comité directeur de la Fédération syndicale Sud, du secrétariat fédéral. Fédération qui est active aussi bien dans la fonction publique, et dans le secteur parapublic. Et cette fédération regroupe plein d'autres associations et syndicats, notamment les syndicats qui sont actifs dans le domaine de l'enseignement. Ce sera Sud Éducation, il y a le secteur social, l'administration en général, la santé. On est très actifs aussi dans les secteurs de la santé, qu'il s'agisse de la santé, les hôpitaux publics et parapublics. Et puis, au sein de cette fédération, on a aussi les étudiants, qui ont créé leur syndicat, donc c'est Sud Étudiants et Précaires, actifs dans le milieu de la formation, alors ça va des gymnasiens aux universitaires, sans oublier les apprentis, et ils sont aussi actifs dans tout ce qui touche le précariat, puisque souvent les étudiants sont amenés, en plus de leurs études, à faire des petits jobs d'étudiants et confrontés à des situations très précaires. Mmh. Voilà, dans les grandes lignes.
D'accord, www.sud-vaud.ch, ça c'est votre site internet.
Qui rêve d'aider, ouais, c'est juste. Ouais.
C'est juste, très bien. Alors, nous allons parler de plusieurs choses entre nous. Nous allons bien entendu parler de Cindy Baza, qui est cette nouvelle fédération qui débute maintenant, qui se crée, en tout cas qui devient publique à l'aune du 1er mai, dont vous êtes toutes deux membres.
Oui, alors effectivement, Cindy Baza, c'est un projet qui a débuté l'automne dernier. C'est l'idée c'est une alliance entre les syndicats de base du pays. Donc nous avons posé les premiers jalons aujourd'hui publiquement avec six organisations, dont les deux que nous représentons ici et quatre autres, donc dont on pourra en parler peut-être plus tard. Et l'idée, c'est vraiment de regrouper nos forces dans une alliance nationale, à la fois en Suisse romande et en Suisse allemande, pour créer les conditions d'un meilleur rapport de force, d'une dynamique, disons, sociale et syndicale. En rupture avec ce qui se passe dans les grandes structures, disons, de l'Union syndicale suisse ou de travail.suisse.
Mmh. Y a-t-il d'ores et déjà un site internet sur lequel on peut, duquel on peut se référer pour trouver de plus amples informations? Ou est-ce que là, on en est juste à l'appel pour le moment?
Alors, on en est à l'appel. Je crois qu'il y a une page Facebook, déjà, il me semblera, non?
Alors, en fait, il y a le projet, disons, de mettre en ligne prochainement un site internet qui va faire le lien un peu entre toutes les organisations et puis aussi être la vitrine de Cindy Baza. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais disons, c'est des choses qui vont arriver assez vite. Mmh. Et puis là, pour l'instant, chaque organisation va relayer, disons, les positions communes, et on est vraiment dans le lancement de cette structure. qui va petit à petit, j'en doute pas, avoir ses propres organes aussi de diffusion d'informations.
Oui, de toute façon, elle est appelée à croître, j'imagine, hein, puisque vous l'avez dit, pour le moment, il s'agit de 6 entités qui se sont réunies. Mais si j'ai bien compris, il y en a d'autres qui gravitent autour et qui ont un statut d'observatrice pour l'instant.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'elles vont bientôt adhérer, hein. Du moment qu'elles acceptent et qu'elles partagent notre charte, hein, Laurent.
Oui, on a établi une déclaration de principe, disons, politique et syndicale, des grandes lignes, des grandes orientations, des valeurs importantes pour nous. Et je crois que ces organisations observatrices vont vite rejoindre, disons, de plein droit à notre structure. Ça fait qu'on aura déjà quand même regroupé un certain nombre de forces, hein, parce que il n'y a pas des milliers de structures existantes à gauche, disons, des syndicats traditionnels dans des positions d'organisation de base démocratique et combative. Donc, si on arrive avec ces 8 groupes déjà ces prochaines semaines à se mettre en action, c'est déjà un énorme pas qui est fait, à mon avis.
Mmh. Alors pourquoi avez-vous, j'ai une question en deux volets, le premier volet c'est le suivant, pourquoi avez-vous ressenti ce besoin de vous réunir dans une nouvelle fédération, dans une nouvelle fêtière, si le mot convient, vous allez me le dire. Le deuxième volet c'est, pensez-vous qu'il faille se réunir mais conserver ses singularités, chacune des organisations, ou à terme se fondre complètement dans une entité plus grande? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Vous pouvez vous partager, partager le truc aussi.
Bon, il y avait cette nécessité d'alliance, hein, d'alliance et de solidarité, parce qu'il n'y a pas de miracle. Plus on est fort, et c'est ce qu'on recherche. Aussi parce que la problématique que chaque organisation syndicale connaît, c'est une réalité pour les autres organisations. La problématique de la précarité, de la violence au travail, de la souffrance au travail, la problématique des licenciements abusifs, aussi, toutes les organisations qu'on retrouve chez Sini Baza sont témoins de ça. Donc il y a quelque chose de commun. Il y a aussi quelque chose de commun, c'est par rapport à l'autonomie du mouvement et puis ce qu'on appelle à cette volonté de développer l'action directe et du syndicalisme de base. Mmh. Voilà, dans les grandes lignes. Bastien, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, c'est aussi toute cette problématique qui nous est commune, des conventions collectives, les problèmes qui sont posés par la pratique actuelle de ces accords, notamment toute la question de l'absence de consultation de la base par les grands syndicats qui signent des accords sans réellement s'appuyer sur des bases sociales, sur des mouvements sociaux qui font ça, je dirais, comme in vitro, un peu dans les bureaux, ça se fait par en haut. Donc nous, on est vraiment pour inverser toute la pyramide. La base doit être à l'origine de ces accords, doit être à la manœuvre. Et puis, on voit aussi, dans le même registre des conventions collectives, toutes les dérives financières liées au détournement des contributions professionnelles, tout un système, un mécanisme financier qui s'est mis en place à part les partenaires sociaux traditionnels, institutionnels, qui détournent des centaines de millions et qui s'enrichissent sur le dos de la classe ouvrière. Donc nous sommes porteurs aussi d'une alternative, non pas aux CCT, parce qu'on n'est pas contre les CCT, c'est un outil important, mais on est pour des autres pratiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous unit face à ces grands appareils bureaucratiques qui sont devenus des pompes à fric vraiment qui s'auto-suffisent en fin de compte.
Mmh. Oui. Alors, oui.
Si je veux. Mais c'est vrai, on peut pas. Peut-être c'est le piège, hein, de ce qu'on appelle du syndicalisme de la paix du travail. C'est-à-dire qu'on peut pas négocier une CCT sans qu'il y ait une construction d'un rapport de force et d'une mobilisation. Je veux dire, sans rapport de force, la CCT sera de toute façon en défaveur des travailleuses et des travailleurs. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est le patronat qui impose les règles du jeu. Non seulement les règles du jeu, et puis, je dirais même, le degré de soumission et puis des bas salaires. Et puis, comme le souligne à juste titre Laurent, l'enjeu financier derrière les CCT, hein, par la contribution professionnelle, c'est énorme sur le plan national. Je crois qu'on avait même avancé un temps des chiffres, hein, ce que représentait cette contribution professionnelle. Bon, je les ai plus en tête. Je sais pas si Laurent, tu les as.
C'est des centaines de millions pour si on parle juste des syndicats, sans parler les associations patronales qui s'en mettent pas mal dans les fouilles aussi au passage, parce que c'est en fait, on va peut-être développer ça plus tard, mais disons que c'est un élément quand même central actuellement du problème aussi posé par les syndicats traditionnels, c'est-à-dire que ils ont trouvé le moyen de gagner plus d'argent en ayant moins de membres. En ayant, et c'est devenu des machines à démobiliser les travailleurs, puisqu'ils ont plus l'aspect prioritaire pour eux, c'est de maintenir en place ces accords qui leur permettent de se financer. Ils sont plus riches maintenant qu'il y a 10 ans, alors qu'ils ont moins de membres, donc il y a quand même quelque chose qui cloche. Et puis, leur priorité, c'est de maintenir en place tous ces accords avec le patronat. Donc, la conséquence, c'est que souvent, ils veulent pas brouiller le patronat, ils veulent pas se fâcher avec, donc ils sont prêts à faire beaucoup de compromis et aussi à démobiliser la base pour éviter justement de perdre cette manne financière. Et là, il y a tout un aspect pervers de ce système. Et Cindy Baza doit être vraiment une alternative, doit dénoncer cette dérive et doit se poser comme un acteur qui construit des rapports de force, qui essaye de construire sur du solide, sur la base, et que la base, elle soit l'élément central à tout moment, et pas des intérêts secondaires qui deviennent les intérêts premiers à la fin.
Oui, alors on va bien entendu revenir là-dessus. Avant cela, j'aurais juste envie de vous questionner sur, j'entends bien, et c'est très compréhensible, de dire, bah, plus on est nombreux, plus on est organisé, plus on est fort. Y a-t-il le péril peut-être que le fait de se retrouver à l'intérieur d'une fédération, il pourrait y avoir à nouveau, bah voilà, on pourrait reproduire, eh bien, cette énorme machinerie, et peut-être que ces singularités que vous êtes en ce moment se confondraient-elles, et il y aurait peut-être un problème là, ou est-ce que vous entrez dans cette fêtière, dans cette fédération, en disant non, mais avant tout, on va tout de même garder notre singularité, et c'est de manière horizontale que l'on va organiser le plus grand nombre.
Oui, c'est bien ça, hein. Je crois qu'on l'a clairement dit lorsqu'on préparait cette alliance, c'est que on se bat pour une autonomie, hein, déjà de Cindy Baza. Il n'y a pas d'avant-gardisme, je dirais, dans cette alliance. Il n'y a ni de dirigisme, puis on ne veut pas tomber dans ce piège non plus du spontanéisme. Voilà, nous, on dit, on est autonome par rapport aux institutions politiques et patronales, et puis on met en avant aussi cette démocratie de base, c'est-à-dire que on
Très
construit
bien.
les choses avec la base, quoi. On
Ouais.
pense pas et on décide pas leur place.
Ouais.
Chaque groupe, je crois, va rester autonome. Simplement, nous fédérons, nous nous allions pour porter justement quelque chose de plus fort, porter ce modèle alternatif des syndicats de base, d'une autre exigence, d'une autre aussi un autre niveau d'objectif, hein. Des syndicats clairement de lutte, des syndicats qui visent, disons, d'aller beaucoup plus loin dans la transformation sociale, de pas simplement co-gérer le système capitaliste avec les patrons, avec la bourgeoisie. Donc il y a quand même un projet beaucoup plus, je dirais, radical et profond. Maintenant, cela signifie pas la fusion de nos forces. Je pense qu'on peut très bien travailler avec chacun avec son identité, justement, chacun son autonomie. Ça garantit aussi justement le maintien d'un travail de proximité avec nos membres respectifs, hein. Et puis, je pense que justement, c'est quelque chose aussi ça doit rester décentralisé avec une coordination la plus efficace possible, et des moments de rassemblement importants, j'espère, à l'avenir pour justement pouvoir créer des rapports de force meilleurs. Mais au final, je crois que chacun doit pouvoir rester le plus proche possible de son secteur, de sa base, et puis des choses qui ont fait leur preuve doivent pouvoir continuer avec ce plus, disons, au-dessus de nous, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire.
J'ajouterais même une chose, si tu permets. L'organisation, elle est nécessaire, parce qu'en face de nous, ils sont très organisés. Ils sont non seulement puissants, mais leur force, c'est l'organisation, hein. Donc, chez nous aussi, on développe cette organisation, mais cette organisation ne veut pas dire qu'on doit s'aliéner et qu'on perd notre liberté et notre autonomie. Bien au contraire. Voilà, chacun
Oui.
garde sa culture, c'est important.
Voilà, donc c'est important de le préciser, l'autonomie, l'indépendance et la mutualisation de ce qu'il faut mutualiser pour arriver à être plus fort et mieux organisé.
Voilà.
Très bien. Alors, parmi les mots-clés et les valeurs centrales qui vous mobilisent, eh bien, il y en aurait deux que j'aimerais questionner. C'est le syndicalisme de base. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'en est-il, hein, des pratiques, des valeurs qui le conduisent? Et l'action directe. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Alors, si je peux commencer à répondre, disons, pour le syndicalisme de base, ben, c'est vraiment que chaque étape, disons, d'un processus, que ce soit par rapport à des conventions collectives, on l'a dit, ou par rapport à des actions qui soient menées dans les entreprises ou dans des quelconques discussions, négociations avec le patronat, doivent être alors impulsées par les travailleurs, par les principaux intéressés. Ça doit être sous leur contrôle, donc ils doivent être présents à tous les niveaux de l'action, hein, de la discussion, pouvoir mettre leur veto, pouvoir aussi, ça c'est disons dans l'action syndicale, mais à l'intérieur des organisations, les travailleurs doivent être à tous les échelons, et ils doivent pouvoir révoquer les dirigeants quand cela s'impose, ils doivent pouvoir être présents à tous les niveaux des organisations syndicales, si possible être l'essentiel disons des forces, limiter la bureaucratie, limiter les tout ce carriérisme, et je pense que ça, c'est quand même une forme d'organisation différente de ce qu'on voit dans les syndicats actuels, disons, on va dire, institutionnalisés, et ça, c'est une première chose. Après, peut-être pour le reste, l'action directe, c'est clair que nous, par exemple, à l'ARTI, on a mené ces dernières années, on était au départ intégré dans UNIA. Pendant 3 ans, on a travaillé au sein d'UNIA, on avait créé un comité de base avec les ouvriers. Ensuite, on a vu l'impossibilité qu'il y avait dans cette structure, justement, d'avoir le contrôle en tant que base, d'organiser des actions, justement, combatives. On était tout le temps bridés, on était tout le temps sous la coupe de ces apparatchiks, ces bureaucrates, en fin de compte, sur lesquels les ouvriers n'ont pas prise. Donc, on a fini par l'année dernière par créer cette structure indépendante. Mais on a quand même mené des grèves, des dénonciations publiques, des actions qui font mal, disons, qui poussent les patrons à négocier tout de suite, sans attendre des années de procédure, sans l'entremise de tous ces avocats, ces mercenaires, qui souvent, génèrent toute une série de blocages, de freins. Et l'action directe, ben, ça reste quand même un moyen des ouvriers pour se défendre, pour faire valoir leurs revendications, et on l'a vu que ça fonctionne, si c'est bien, si les rapports de force sont là, si les gens sont solidaires, si on arrive à créer des blocs de travailleurs forts, eh ben, il n'y a pas de raison de s'en priver de cette action directe.
Oui, moi je partage tout à fait ce qu'il dit, hein. Mmh. Voilà, on ne pense pas et on ne décide pas à la place des gens qui sont sur le terrain, hein, les gens à la base, ça c'est la première chose, et c'est à eux et à elles de construire justement ce rapport de force, et ce sera par l'action. Voilà, c'est pas qu'on va laisser tomber les autres outils. Il y a peut-être des moments où la pétition peut être utile, hein. Il y a des moments où il faut aller au tribunal parce qu'il y a des situations, un congé abusif. Voilà. Mais on pense que c'est dans l'action directe qu'on oblige à un moment donné les patrons à céder, mmh, et à négocier. Ouais. Et c'est ça qu'on doit essayer de construire et de développer. Et d'étendre au maximum, partout où on peut. Il y a des moments où ça marche pas. Ben voilà. Il y a d'autres moments où on part d'un petit conflit individuel. C'est quelqu'un qui vient nous voir parce qu'il est en situation de souffrance et de violence au travail. Et lorsqu'on vient et on l'accompagne dans sa défense, on se rend compte que c'est tous les collègues qui vivent la même chose, qui souffrent aussi. Et de là, on essaie de construire quelque chose. Et c'est elle et eux qui vont pouvoir faire, à un moment donné, changer les choses.
Oui. Voilà. Moi, je dirais aussi, si je peux encore ajouter quelque chose là-dessus, c'est que contrairement aux idées reçues, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite, que j'ai eue, c'est que les travailleurs, en tout cas dans le bâtiment, sont beaucoup plus combatifs que ce qu'on croit, et ils sont souvent beaucoup plus conscients que des actions directes, des grèves ou des dénonciations fortes publiques ont beaucoup plus d'efficacité que des démarches bureaucratiques. Ils le savent, inconsciemment ou consciemment, et souvent, si on leur propose, ils sont prêts à le faire. Alors, ça dépend des cas de figure, hein. Évidemment, c'est pas non plus simple, mais on est surpris, j'ai été surpris, en tout cas moi, ces dernières années, de le constater. Et puis, souvent, le problème qu'il y a, c'est que les syndicats eux-mêmes sont les premiers à décourager les gens, sont les premiers à leur proposer plein d'options, sauf l'action directe, sauf la grève, sauf la dénonciation. Et c'est justement là où il y a un vrai problème, c'est que c'est pas les travailleurs qui ont, en fin de compte, fondamentalement changé. Les travailleurs sont lucides. S'ils savent qu'en cognant, ils vont arriver en cognant fort, en un jour, ils vont obtenir ce qu'ils obtiendraient en une année par des procédures, ils vont pas hésiter. ils ont d'une certaine manière cette lucidité. Par contre, c'est les structures qui ont changé, qui ont dérivé vers des structures de collaboration, de bureaucratie, et qui n'ont pas intérêt, en fin de compte, à prendre de risques, à faire des actions. Ils préfèrent la jouer bureaucrate, ça assure leur fonds de commerce. Et puis surtout, d'une certaine manière, ça menace pas tout leur business avec les patrons.
Ils peuvent pas le faire, parce que s'ils le font, ils perdent leur... Oui, tu as raison, Laurent, ils perdent leur fric. Et ils sont là, je crois, pour cadrer le salariat. Ils sont des gérants du système. Et c'est par eux et grâce à eux. C'est un peu comme les RH, hein, je dirais.
C'est un peu les... À la comparaison.
Au début, on a l'illusion en disant, tiens, l'assistant, le conseiller RH est là, dans les RH qui est humain, donc il va m'aider dans mon malheur et dans ma misère. Et puis, le RH est là pour cadrer les gens et à un moment donné, les freiner et voir les sanctionner.
Alors, si je résume...
J'ai un peu forte, mais...
Ouais.
Voilà, il y a un peu de temps, quoi.
Oui, ouais. Alors, si je résume, mais vous allez peut-être me démentir, il est urgent de questionner le syndicalisme traditionnel, le syndicalisme institutionnel, d'en fonder un nouveau, radical, offensif, combatif, avec, pour et par les travailleuses et les travailleurs. Peut-on dire que le syndicalisme auquel on assiste actuellement, eh ben, vire au jaune?
Oui, mais on peut même se poser la question. Est-ce qu'un jour, je pense, hein, mais est-ce qu'un jour les patrons vont pouvoir se séparer de ce syndicalisme institutionnel? Je pense qu'un jour ils diront, ben, on n'a plus besoin d'eux. Parce qu'on maîtrise et on contrôle tellement les choses qu'on arrêtera. Et ce jour-là, je pense que ce syndicalisme institutionnel sera même pas capable de résister. Il ne sera peut-être même pas capable de mobiliser les gens en disant, ben, non, stop, on va sortir dans la rue, c'est la grève, par exemple.
De survivre. Par exemple, moi, je partage ton résumé, hein, il est très juste, mais voilà, j'irai même plus loin. Ce système, tel qu'on le connaît maintenant en Suisse, tel qu'il s'est beaucoup développé, cette dérive s'est accentuée, je pense, depuis 15 ans, il va jusqu'au point que ces syndicats, moi j'étais à Unia à Vaud, hein, dans le canton de Vaud, les militants, ils se comptent sur les doigts de deux, trois mains, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de base, en fait, il y a des milliers de membres, parce que c'est tout un système d'appât avec l'argent, ils remboursent aux gens des contributions, donc les gens, ça leur coûte rien d'être membres. Donc c'est toute une perversion aussi, parce que les gens adhèrent par intérêt financier aussi, et plus que par conviction. Mais en réalité, ils n'ont plus de force, à part dans un ou deux secteurs résiduels qui restent encore mobilisables, ils n'ont plus de force. Et puis, c'est des géants, disons, mais qui sont très fragiles en fin de compte. Et comme dit Andrea, il suffirait que les patrons leur coupent le robinet et ils s'effondreraient. Moi, je pense qu'ils s'effondreraient très rapidement, ouais. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont plus, disons, le moteur. C'est plus le moteur humain, le moteur de la motivation, le moteur du militantisme. Ils l'ont plus. C'est que des gens payés. Donc, ils arrivent dans les manifs, ils arrivent à mobiliser des fois 50 permanents pour une action. Si ces gens n'étaient pas payés, ils seraient pas là. C'est pas des gens qui sont là par conviction. Il y en a qui sont, je jette pas la pierre à ces personnes. Il y a des gens formidables. Moi-même, j'en ai fait partie à un moment donné. Simplement, il y a avec tout ce système qui est basé sur le salaire, sur l'argent, sur le fait que à tous les niveaux, même les membres sont intéressés financièrement, il n'y a plus vraiment de base sociale et ça tient avec l'argent. Mais si un jour l'argent, la source tarie, ça s'écroulera, ça c'est clair.
Alors dites-moi, dans ce syndicat de base, ce syndicalisme d'action directe, selon vous, jusqu'où faudra-t-il aller et jusqu'où êtes-vous prête et prêt à aller? On parle effectivement, parce que Andrea, tu as parlé de pétition, clairement la manif, pourquoi pas le blocage, on peut éventuellement parler de grève, de sabotage, voilà. Comment est-ce que, jusqu'où pensez-vous qu'il faudra aller pour changer réellement changer les choses réellement et installer un rapport de force?
Jusqu'où les gens sont prêts à aller, hein. C'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare, ça demande du temps. Ça fait partie aussi, et c'est un des rôles qu'on a aussi, hein, c'est la formation. Dans des tas de secteurs, on doit former sur un plan syndical et politique, c'est faire prendre conscience de cette conscience de classe, quoi. Voilà, qui on est et qui sont les autres. Je disais la pétition parce qu'il y a des moments, bah voilà, on est limité et puis certains collectifs disent, bah voilà, on va faire une pétition. Bah, on les accompagne dans cette pétition et puis ils se rendent compte que la pétition n'a pas d'effet. Et peut-être qu'on arrive passer à un autre stade. Ce sera la mobilisation, le débrayage. Et puis, la grève. Mais c'est des choses qui se construisent avec le temps et qui, voilà, il suffit pas d'une baguette magique pour demain. Voilà, c'est tout le danger aussi de cette dimension un peu spontanée, hein. Je crois que c'est des choses qui se travaillent, qui s'organisent et on doit alimenter tout ça constamment.
Ouais. Laurent, tu vas ajouter oui. quelque chose?
Oui, c'est très difficile de prédire les choses à l'avance, comme c'est que ça dépend dans chaque situation est différente, mais l'idée c'est effectivement de pouvoir entrevoir avec ces travailleurs, ces travailleuses, si besoin est, si la volonté, il y a la volonté de le faire, d'aller plus loin, de soutenir toutes ces démarches sans, disons, restriction. Alors évidemment, on parle de démarches qui sont légales, j'entends, mais une grève, moi j'ai conduit des petites grèves qui étaient illicites d'un point de vue des conventions collectives dans l'électricité, on les a menées et on les a gagnées, on a pris le risque et j'ai un procès aux fesses là encore en cours avec je suis accusé de contrainte avec certains ouvriers pour une grève en 2018. C'est pas encore jugé à Yverdon. Voilà, on assume les conséquences, y compris pénales, judiciaires. Mais nous, on se base sur des actions légitimes, proportionnées, respectueuses des biens et des personnes. Mais après, c'est clair que s'il y a des situations qui appellent à des mesures de lutte énergiques, comme je le dis, en respectant les biens, les personnes, en essayant d'être le plus possible dans la légalité, mais il y a des règles qui sont inacceptables dans les conventions collectives. Quand certains syndicats signent des textes où il y a la paix absolue du travail, l'interdiction des grèves ou des débrayages, c'est pas possible, disons, de pratiquer ce genre d'accord à un moment donné. Dans certaines situations, il y a des luttes qui s'imposent. Donc, nous, on peut pas les commander, on peut pas les planifier, mais on doit être prêt. Et en tout cas, je crois que les forces là qui composent Sindibaza sont prêtes à soutenir ces actions, sans la peur au ventre. Et je dirais que ce qui guide notre choix, c'est avant tout la défense de la justice sociale, des intérêts de la classe ouvrière et avant tout le respect de ces alinéas de trahison qui ont été signés par certaines organisations.
Mmh. Andrea, tu parlais tout à l'heure de formation, pourrait-on dire peut-être d'une forme de politisation également des esprits. Est-ce que l'éducation populaire fait partie des attributions dont vous avez envie que vous avez envie d'assumer et de propager?
Oui, alors oui, vraiment. Je pense qu'il faut qu'on continue à développer ça. Ça va des cours d'autodéfense, hein, d'autodéfense intellectuelle, des cours d'autodéfense juridique, qui ont un certain succès. Hein. C'est impressionnant. Les gens sont demandeurs de savoir comprendre dans quelles conditions de travail ils sont, comprendre quels sont leurs droits, comment on se bat pour faire valoir ses droits déjà. Par rapport, c'est simplement référence au droit du travail, hein, et qui est pas très avantageux. Comme la justice bourgeoise, hein, des prud'hommes, hein, c'est-à-dire on sait comment ça finit généralement, puis le maximum ce qu'on peut obtenir est dérisoire, dans le sens on ne peut pas réintégrer quelqu'un qui aurait été licencié de manière abusive. C'est ça le drame, et c'est là-dessus aussi qu'on se bat. Si on gagne cette partie, on peut en gagner d'autres par la suite. Mmh. Mais on a par exemple à Sud, dans la Fédération syndicale Sud, on a aussi organisé des conférences, on a invité des gens pour parler de certains problèmes. La sociologue Linhart, qui est active en France sur la précarité objective et subjective dans le travail. On a invité même des écrivains, dont son nom m'échappe, qui avait écrit un très joli livre et qui se base sur l'histoire de la Suisse, hein, des 10 petites anarchistes.
Oui. Si on dit quelque chose.
Maintenant, le nom de l'auteur m'échappe.
De Roulet.
Comment?
De Roulet.
Voilà, De Roulet.
Oui, on l'a interviewé la semaine passée, exprès pour les 10 petites anarchistes.
Donc, il était venu aussi en deuxième partie d'une assemblée générale pour nous parler de son livre, mais aussi de parler de la vie, hein, de la réalité des Suisses qui, il y a peu de temps, si on veut, hein, dans l'histoire, crevaient de faim. Et comment certaines communes, ou comment les pays, les ont poussés à quitter le territoire, hein, puis à aller tenter leur chance en Amérique du Sud, avec tous les dégâts qu'il y a eu. Voilà, je pense que c'est toutes ces choses qu'on cherche à développer, qu'on doit continuer à développer, pour que les gens... puissent porter eux-mêmes leur vie et leur avenir et leur aspiration pour qu'ils puissent envisager l'impossible et réaliser de la manière tout possible qu'ils sont porteurs, quoi.
Nous, par exemple, si à l'ARTI, on a initié là un processus de formation de secrétaires syndicaux ouvriers. Donc, des personnes comme moi et quelques autres qui ont un certain bagage, une certaine expérience hein, de toute la manière dont on peut gérer des dossiers, que ce soit individuel ou collectif, des activités syndicales. Et ben là, on est en train de transmettre à toute une volée il y a des électriciens, il y a des gens du second œuvre, il y a même des personnes, disons, du domaine médical on a 7 ou 8 élèves là, en ce moment, qui se forment à devenir secrétaires syndical de milice, entre guillemets, pour pouvoir aider demain. Ça peut être là un ancien collègue, ça peut être des gens qui fréquentent sur les chantiers ou dans leur lieu de travail, et puis aussi aller au tribunal et parler, pas seulement dans les habits d'un professionnel du syndicalisme, mais aussi de quelqu'un qui est toujours dans le travail, par exemple dans la branche en question. Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est aussi cette formation-là, et c'est donner aussi une autre dimension, disons, à ce travail de syndicalisme, entre guillemets, de secrétaire syndical.
Mmh. Ouais. Moi, je dis, on doit socialiser, c'est important, hein, ce savoir, ces manières de se défendre, de combattre, de lutter, de résister, parce que c'est d'une certaine manière préparer le terrain de demain, lorsqu'on cherchera à socialiser les moyens de production. Voilà, on commence par là.
Selon vous, le salariat dans le syndicat, est-ce le piège ou est-ce à un moment donné une nécessité? Vous le voyez comment?
Le salariat, mais on est avec le salaire.
C'est-à-dire voilà, des secrétaires syndicaux salariés. Ou de quelle manière est-ce que vous envisageriez la chose si voilà, il y avait des secrétaires syndicaux professionnels?
À nous, à Sud, hein, on a des camarades qui sont salariés à temps partiel, qui gèrent et qui assument avec une efficacité redoutable toute la logistique, toute la question administrative. On peut imaginer, c'est toujours délicat hein, cette question, que la majorité des militants, hein, les syndicalistes sont militants, ne sont pas salariés. Mais à un moment donné, on peut imaginer, c'est vrai, qu'il soit nécessaire de créer un bout de poste, hein, parce que la personne doit s'engager et développer une lutte, et il faut de l'énergie, du temps, il faut vivre, il faut vivre. Mais c'est un grand débat, hein, ce qui n'est pas évident.
En tout cas, on peut dire que vous vous questionnez à ce propos.
Oui, moi je dirais que c'est en tout cas, en ce qui du point de vue qu'on a développé nous à l'ARTI, on n'est pas contre. On n'a pas de dogme en la matière. C'est-à-dire que l'idée, c'est de limiter au maximum les permanents. C'est de limiter la dépendance financière que ça implique aussi. C'est de limiter les dérives qui peuvent être induites. Mais en même temps, comme l'a dit Andrea, on est conscient qu'il y a aussi tout un travail important de coordination, d'administration et puis surtout de suivi qui est pas possible quand les gens travaillent 40 heures par semaine sur un chantier. On peut pas demander aux gens non plus on a un niveau quand même de professionnalisme entre guillemets qui devient à certains moments nécessaire suivant l'ampleur de la tâche qu'on est amené à affronter. Et puis ça, ben, je pense, ça passe par des, ça, pour moi, ça n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand il y a des centaines de gens qui sont salariés, quand il y a plus de, il y a des proportions, disons, qui doivent être, à mon avis, importantes. Et puis ça doit être vraiment réservé au strict nécessaire. Et il faut s'appuyer au maximum sur le militantisme par ailleurs. Mais je pense que c'est inévitable. Après, peut-être dans une société idéale où vraiment on arrivait à former et à avoir une motivation telle d'une masse de gens suffisante qu'on pourrait se passer de ça. Mais on n'en est pas là à l'heure actuelle, je crois, dans notre pays.
Ouais, c'est ça. Moi, je discutais tout à l'heure avec une camarade de la CNTSO en France, à Marseille, qui est très active dans la défense des nettoyeuses et des jolis succès, des belles luttes, hein. Ben, elle est salariée. Elle est salariée alors que c'est un syndicat. Il s'inspire beaucoup de l'anarcho-syndicalisme. Mais parce qu'il y a un moment donné où il y a des actions, il est nécessaire de développer et de mettre des forces, et parce que les gens doivent manger aussi. Et puis ce qui est important, c'est que tant que la base reste maître et contrôle, ben le risque est toujours limité. d'une certaine manière.
Oui, voilà, ce qu'on dénonce, c'est l'hypertrophie du salariat, alors qu'il doit rester dans ses plus simples et réduites mesures, si j'ai bien compris.
Voilà.
Andrea, tu viens de citer la CNT, alors ben, du coup, j'enchaîne. Vous revendiquez-vous, vous-même, en tant qu'entité, donc Arty et Sud, et en tant que fêtière au sein de Cindy Baza, vous revendiquez-vous d'un héritage anarcho-syndicaliste, par exemple, des bourses du travail, de pelutiers, tout ça, ou pas?
Alors, en ce qui concerne l'Arty, je dirais non, en ce qui concerne l'ensemble du groupe, c'est-à-dire non pas parce que il y a une position contraire, mais parce qu'on n'a jamais eu ce débat. Il faut savoir, comme je disais, on était un comité de base qu'on a nous-mêmes créé, hein, c'était pas à la demande d'UNIA, mais on s'était créé à l'intérieur d'UNIA, parce que moi-même, j'avais commencé un travail de secrétaire syndical dans cette structure, et naïvement, ben voilà, j'ai fait ce boulot, parce que pour moi, c'était ça, le syndicalisme, et puis, on a rassemblé des gens de très variés, disons, c'est vraiment une base ouvrière comme on peut la connaître en Suisse à l'heure actuelle, qui est, certains sont politisés, d'autres non, certains ont des réflexions qui vont dans le sens de ce que tu dis, d'autres non. Et puis pour nous, l'important à ce stade, en tout cas jusqu'à présent, n'était pas là. L'important, c'était la pratique, c'était dans notre exercice concret de notre travail, c'était pour nous des choses simples, comme le respect de la base, le centre doit être les travailleurs, c'était l'idée de la combativité qui s'est imposée, parce que voilà, et justement, il y a des besoins, il y a des injustices, c'est vraiment cette idée d'un discours de vérité, de voir les forces et les faiblesses, d'affronter les problèmes, de pas se mentir, pas manipuler, donner la parole à la base, la respecter. Puis dans ce cadre-là, on pouvait pas se structurer comme syndicat, entre guillemets, avec une idéologie, en tout cas à ce stade. Mais par contre, personnellement, disons, en ce qui me concerne, je dirais, assez proche de ces conceptions, mais c'est plus un point de vue personnel, vous voyez.
D'accord. Andrea?
Oui, je partage ce que dit Laurent. Dans nos organisations, et puis je dirais même dans Cindy Baza, et c'est ça peut-être sa force, hein, il y a des cultures, il y a des sensibilités très différentes, et on doit les respecter, on doit les défendre. Mais il y a quelque chose en commun, je veux dire, entre nous, hein, et qui est intéressant, des points communs, c'est ce besoin d'autonomie, et de développer l'autonomie le plus possible. Il y a ce besoin de liberté, et de démocratie, et de solidarité. Et c'est ça notre force, avec des affinités très différentes. Et je pense que c'est dans l'action qu'on va grandir.
Oui.
Par rapport à tout ça. Mais ce serait, je pense pas qu'on puisse venir dire voilà, on serait telle couleur ou telle tendance, non.
Très bien. Eh bien, alors on arrive doucement au terme de cet entretien, pardon. Je vous remercie déjà beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à ces questions. Alors nous sommes à l'aune du 1er mai. On l'a dit, la fédération Cindy Baza surgit le 1er mai. Et ensuite, y a-t-il d'ores et déjà des étapes auxquelles vous pensez? Y a-t-il d'ores et déjà un agenda qui serait public ou quasiment public? Ou en tout cas un questionnement qui a cours pour la suite des opérations?
Alors, il y a déjà demain, hein, la radio. Je veux dire, ce 1er mai, il y a cette fameuse radio du 1er mai de Cindy Baza, qui est un moment très important où on va pouvoir parler de revendications, on va pouvoir décrire des tas de choses. Après, il y aura bien sûr, il y aura d'autres étapes et d'autres enjeux. Notamment, je crois que voilà, on traverse une crise qui est dramatique, hein, cette fameuse crise sanitaire, Covid, mais qui dans ce drame dévoile beaucoup de choses, beaucoup d'injustices. Beaucoup de souffrance, hein, et les limites aussi de ce système, clairement. Et puis la question qui va se poser demain, c'est qui va payer cette crise? Peut-être que là, Cindy Baza aura un rôle à jouer, un rôle très important, parce qu'il va y avoir des conséquences sur les conditions de travail, il va y avoir forcément des conséquences sur les salaires, des conséquences dans la fonction publique et parapublique, des graves conséquences dans les assurances sociales. Et là, on devra certainement, et on va certainement agir. Laurent, je pense que tu peux encore...
Oui, bah, dans l'immédiat, par exemple, pour revenir à des choses très, très concrètes, on a aussi l'intention de faire une campagne d'affichage dans tous les lieux de travail privés et publics que l'on peut couvrir. Donc ça, c'est dans le mois de mai, le mois qui vient, là. On est en train de préparer ces affiches Cindy Baza, que tout le monde, pour appeler les gens aussi à nous rejoindre, appeler les gens à s'organiser, à la, depuis la base, à donner cette, cette impulsion pour le renouveau d'un syndicalisme authentique, revenir un peu, je dirais, aux sources, revenir à redonner un peu ses lettres de noblesse au syndicalisme qui a été bien amoché par ces gros conglomérats là qu'on voit actuellement à l'action. Donc qui est, comme je me répète, hein, y a du bon aussi dedans, mais voilà, globalement c'est un peu, ça a beaucoup dérivé. Et puis on espère, ben, une fois que la crise nous permettra aussi, que cette crise sanitaire j'espère se résorbera, pour qu'on puisse reprendre un travail de terrain plus systématique dans les lieux de travail, et ben, on va essayer justement avec ce nouvel outil, cette nouvelle alliance, de booster, je dirais, toutes nos activités avec auprès des travailleurs. Et comme dit Andrea, bah, il va y avoir des échéances importantes avec les conséquences de cette crise, notamment. Et j'espère que Cindy Baza sera un acteur aussi pour apporter des solutions, pour apporter, disons, une grille d'analyse et des propositions, et regrouper les gens qui n'accepteront pas une nouvelle fois, comme ça s'est fait déjà avec la crise des banques là, il y a 10 ans en arrière, d'être au final, on actionne la planche à billets pour les entreprises, et puis c'est les couillons de travailleurs qui finalement épongent toutes les dettes pendant des années, ou doivent payer les conséquences de l'austérité, des réductions de salaires et autres, donc, alors que les dividendes sont payés comme si de rien n'était. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu à l'avenir assez rapproche avec cette crise. Ouais. Et ouais. Ben, je ne pense pas que ça sera un luxe d'avoir des structures comme Cindy Baza dans ce contexte.
Non, vraiment pas.
Clairement
je
pas, ouais.
Je vais dire quelque chose encore, en parlant des syndicats institutionnels. On a des camarades, on sait qu'il y a des travailleuses et des travailleurs dans ces syndicats qui font un boulot exceptionnel, qui sont sensibles à ce qui se passe dans la ville, sur les chantiers, dans les lieux de travail. Et on tient aussi à saluer ce qu'ils font, parce que c'est aussi un bon boulot. Et s'ils peuvent pas faire plus, c'est peut-être qu'on leur donne pas les moyens de faire plus. De la même manière que dans les tas d'organisations et dans tas d'autres lieux de travail, hein, je pense maintenant au personnel soignant qui se bat aujourd'hui par rapport à ce virus, aux nettoyeuses qui doivent déambuler dans ces salles et pour désinfecter et nettoyer, qu'on oublie souvent. Voilà, parmi ces travailleuses et travailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font quelque chose de magnifique. Qui ont des toits et qui ont souvent pas les moyens de faire plus. Et c'est aussi une sorte de violence pour eux.
Alors nous,
les subjectives qu'ils subissent.
Oui. Alors nous, en tout cas, on invite toutes et tous à se rendre sur les sites internet, à se renseigner, à rejoindre les organisations. Alors pour l'artiste, c'est www.comité-électro-vaudois.ch, et pour Sud, c'est www.sud-vaud.ch. Ainsi que, eh bien, la fêtière Cindy Baza. On invite toutes et tous effectivement également à écouter la radio demain. Probablement, je ne sais pas, vous me direz, mais probablement qu'on pourrait proposer cet entretien au programme de la radio demain également. Et puis maintenant, pour en terminer, j'aurais voulu encore vous questionner, parce que vous en avez parlé, hein, c'est la crise du Covid-19 avec toutes les implications qui ont cours. J'aurais voulu vous poser encore deux petites questions. Ce serait les « que va-t-on faire après ce Covid-19 » J'ai dit Covid-21, je crois. « Que va-t-on faire après ce Covid-19 » Alors, juste une date butoir, question que j'ai posée ce matin à la conférence de presse. Le 11 mai prochain, le Crédit Suisse donne la première tranche des dividendes aux actionnaires. C'est-à-dire que le Crédit Suisse et l'UBS ne vont pas du tout renoncer, elles vont juste diluer le fait de donner les mêmes dividendes aux actionnaires, alors que nous traversons une crise qui est incroyable et dont les coûts sont innombrables. Alors voilà, que va-t-on faire ? Que va-t-on faire de ces multinationales ? Que va-t-on faire de ces capitaines d'industrie ? Que va-t-on faire des actionnaires, de leurs dividendes ? Ça, c'est la petite partie sur laquelle j'aurais envie de vous questionner. Et puis ensuite, j'aurais voulu avoir encore votre opinion sur les élections prochaines qui viennent d'être confirmées du 27 septembre, où notamment nous allons voter sur l'achat d'avions militaires, d'avions de guerre. Alors voilà, que va-t-on faire ? Auriez-vous envie de vous exprimer par rapport à ça ?
Oui, bah, moi je crois que c'est ceux qui ont de l'argent qui devront payer cette crise, ça c'est évident, hein. Ça va, ce sera pas mis aux salariés, aux travailleuses, aux travailleurs et encore moins aux retraités de payer cette crise. Elle peut être payée par l'imposition, c'est déjà une première étape. Alors qu'on était dans une logique de faire des cadeaux fiscaux, de les généraliser, aujourd'hui on stoppe tout parce qu'on doit payer cette crise. Et puis je pense que la cotisation sociale aurait un rôle important. Parce que je pense que par la cotisation sociale, puisqu'on produit de la richesse, et cette richesse, par la cotisation, elle permettrait aussi de financer et d'avancer sur de nouveaux projets.
Par rapport à, pour rebondir sur ce qui était dit sur les actionnaires et autres entreprises privées, c'est clair qu'on voit déjà se dessiner la suite, quoi. C'est-à-dire qu'eux, comme tu l'as dit, ils ont aucune intention de renoncer à leurs privilèges, à leurs dividendes, à leurs avantages. Ils ont perdu, certes, certains secteurs ont laissé des plumes là, mais ils veulent se faire, ils vont demander des aides de l'État. Donc, ce qui va être important, par exemple, c'est que ces aides soient, elles devraient être cautionnées à toute une série de conditions, notamment les conditions sociales des travailleurs de ces entreprises. Est-ce qu'elles sont justement garanties? Est-ce qu'ils ont favorisé, disons, l'intérêt de leurs employés, de leurs travailleurs durant cette période? Est-ce qu'ils ont un rôle social aussi plus largement? Est-ce qu'ils payent leurs impôts correctement? Est-ce que c'est pas des sociétés qui font de l'évasion fiscale ou qui fraudent ou je ne sais quoi aux conventions collectives? Donc je pense que ça, c'est un premier chose. C'est vraiment le minimum. C'est de dire, si toute aide de l'État qui va à ces entreprises et il y a des milliards qui vont être injectés, devrait être conditionnée à vraiment des critères stricts, sociaux, environnementaux, si possible aussi. Après, effectivement, pour le reste, on sait très bien qui dirige la Suisse, hein. Je veux dire, c'est la bourgeoisie, c'est les milieux d'affaires, c'est l'économie. Donc, la bataille va être rude pour arriver à limiter les conséquences de cette crise au niveau des travailleurs et des salariés. Mais il va falloir se battre, comme toujours. Et puis, on espère que cette crise fera aussi prendre conscience plus largement dans la population suisse de la nécessité de relancer, disons, des investissements dans les services publics, de valoriser toute une série de services publics et surtout les conditions de travail de ces employés et aussi des secteurs stratégiques qui ont été complètement négligés. Donc voilà, il y a aussi tout ce travail je dirais, d'opportunité pour nous, mais plus largement dans le débat politique, pour dire, mais voyez, maintenant, cette crise, elle a montré les faiblesses du système, elle a montré les faiblesses de certains services publics, bien qu'ils ont été exemplaires pour ce qui est des travailleurs qui ont pratiqué, mais ils n'ont pas souvent les moyens non plus. Et puis on a vu aussi que toutes ces grandes sociétés sont pas solidaires, toutes ces grandes multinationales qui maintenant viennent pleurer misère, c'est les mêmes qui vont se goinfrer dès qu'elles pourront à nouveau le faire. Donc voilà, la bataille, c'est toujours la même, si j'ose dire, c'est le capital contre le travail. Et le capital, ces dernières années, il a marqué beaucoup de points et il est arrivé à un stade où il est, j'aime pas cette expression, mais il se sent en tout cas tout puissant. Il a les relais, il a, disons, une armée d'esclaves dans les parlements et ça va être difficile, disons, d'imposer nos vues à court terme. Mais cette situation nous aide aussi à amener un certain nombre de débats sur la place publique. Ça, c'est positif.
Concernant les licenciements pendant cette crise du Covid-19, en avez-vous recensé et avez-vous une position par rapport à cela?
Oui, alors, oui, on a eu des. On croit toujours qu'à l'État, on ne peut pas licencier ou que ce n'est pas vrai, qu'on est protégé. C'est faux, hein. Il y a des procédures d'avertissement, il y a des congés, oui. C'est pour ça qu'on disait pendant cette crise qu'il ne devait pas y avoir de procédure managériale de licenciement. Mais de manière générale, nous, on le défend depuis longtemps, hein. Si un licenciement est considéré comme abusif, on exige que la personne puisse être réintégrée, tout simplement.
Donc, on peut imaginer qu'à la reprise, eh bien, les prud'hommes seront occupés également.
Oui, parce que pour ce qui est de l'expérience qu'on a vue dans le bâtiment, il y a énormément de, notamment tous les temporaires, il y a énormément de gens qui ont été virés là dès le début de la crise, comme il y a des délais très courts, ils s'en sont débarrassés rapidement. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui prétextent d'autres des restructurations, d'autres qui cherchent la petite bête pour se débarrasser au maximum de dégraisser leur effectif. C'est une réalité, hein. Donc il y a eu beaucoup de licenciements là, ou d'interruptions de mission. C'est un vrai problème, disons, qui s'est posé là récemment.
Et de réduire la masse salariale, hein. C'est ça aussi, hein. Pendant cette crise, on profite, puis on réengage derrière, puis il faudra voir à quelles conditions on va réengager.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est aussi une petite entourloupe bien connue. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Andrea pour Sud, Solidaire Unitaire Démocratique, c'est www.sud-vd.ch. Et Laurent, l'association romande des travailleurs de l'installation électrique. Le site internet, c'est www.comité-électro-vaudois.ch. Merci à vous et courage pour la suite des opérations.
Merci.
Merci.
Portez-vous bien.
This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge.
Libre Radio, c'est la fin du début ou le début de la fin. www.libradio.org